Bienvenue à tous dans notre exploration du monde passionnant et parfois déroutant de l'éducation à la sexualité à l'ère numérique.
Ah oui, un sujet délicat.
Ouais, c'est ça, où on doit jongler entre informations fiables et fausses, nouvelles opportunités et risques. Imaginez un peu des experts, des documents juridiques, des articles sur les réseaux sociaux et même un aperçu du monde des sugar babies.
Ah oui.
Le tout pour vous aider à mieux comprendre ce paysage numérique complexe.
Exactement. L'idée est de vous donner des clés pour décrypter ce monde,
Ouais.
pour que vous puissiez évaluer l'information, reconnaître les dangers potentiels et surtout encourager des interactions saines en ligne.
Et pour commencer, on va se pencher sur les fameuses compétences psychosociales, les CPS.
Oui.
Vous savez, ces aptitudes qui nous aident à naviguer dans les méandres de la vie et à faire des choix éclairés, surtout en matière de sexualité. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut utiliser ces CPS pour se protéger en ligne?
Eh bien, prenons l'exemple de la pensée critique, l'une des 10 compétences psychosociales définies par l'OMS.
D'accord.
Imaginez que vous êtes sur TikTok et que vous tombez sur une vidéo qui présente une pratique sexuelle particulière. Grâce à la pensée critique, vous allez pouvoir analyser le message, identifier les potentielles manipulations et même faire des recherches pour en savoir plus.
C'est un peu comme si on mettait notre casquette de détective pour décrypter l'information.
Oui.
On ne gobe pas tout ce qu'on voit, on creuse, on vérifie les sources.
Tout à fait. Et une autre compétence essentielle, c'est l'affirmation de soi. Face à la pression du groupe ou à des propositions déplacées, savoir dire non, fixer ses limites, c'est primordial, autant dans la vie réelle que sur Internet.
Et ça me fait penser à un autre aspect, la communication. Savoir exprimer ses besoins, ses envies, ses limites de manière claire et respectueuse. C'est la base d'une relation saine, qu'elle soit virtuelle ou non.
Absolument. La communication est essentielle pour construire des relations saines et se protéger des situations à risque. D'ailleurs, on va justement aborder l'impact des réseaux sociaux sur l'éducation de la sexualité.
Ah oui, les réseaux sociaux, un vrai terrain de jeu, mais aussi un champ de mine.
C'est ça.
D'un côté, ils permettent de briser les tabous, de créer des communautés, de partager de l'information.
Oui.
Mais de l'autre, on y trouve aussi de la désinformation, des contenus inappropriés et même des prédateurs.
C'est exact. Prenons l'exemple de TikTok, une plateforme très populaire chez les jeunes.
Ouais.
On y trouve des influenceurs qui font de l'éducation sexuelle de manière ludique et accessible, ce qui peut être très positif, mais il y a aussi le revers de la médaille.
Vous parlez du phénomène des sugar babies.
Oui.
On a lu des articles assez inquiétants sur ce sujet.
Oui, c'est un exemple parmi d'autres des dangers que l'on peut rencontrer sur les réseaux sociaux. Des jeunes souvent en situation de vulnérabilité sont attirés par la promesse d'une vie de luxe et finissent par s'engager dans des relations à risque avec des adultes.
C'est effrayant de voir comment certains adultes profitent de la naïveté et de la vulnérabilité des jeunes sur ces plateformes.
Il est donc crucial de sensibiliser les jeunes aux dangers potentiels des réseaux sociaux,
Oui.
de leur apprendre à identifier les situations à risque, à faire preuve de prudence dans leurs interactions en ligne, et surtout à parler à un adulte de confiance s'ils sont confrontés à un problème.
Et au-delà des prédateurs, il y a aussi l'influence des réseaux sociaux sur les normes et les comportements.
Oui,
On
c'est.
est bombardé d'images parfaites, de standards de beauté irréalistes, de pratiques sexuelles parfois dégradantes. Comment est-ce qu'on peut aider les jeunes à développer un regard critique sur tout ça?
L'éducation aux médias est un outil essentiel pour aider les jeunes à déconstruire les images, à questionner les messages, à identifier les stéréotypes.
Ouais.
Il est important qu'ils comprennent que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux n'est pas toujours représentatif de la réalité et qu'ils développent leur propre sens critique.
D'ailleurs, parlons de la censure qui touche souvent les contenus d'éducation sexuelle sur ces plateformes. C'est paradoxal, on veut protéger les jeunes,
Oui.
mais en même temps, on censure des informations qui pourraient les aider à faire des choix éclairés.
Effectivement, c'est un vrai dilemme. Les algorithmes des plateformes, parfois couplés au signalement d'utilisateurs, peuvent censurer ou rendre invisibles des contenus pourtant importants pour la santé sexuelle.
Et ça nous amène à un autre sujet sensible, les contenus intimes et le revenge porn. C'est un phénomène de plus en plus répandu qui peut avoir des conséquences dévastatrices pour les victimes.
Absolument. La diffusion non consentie de contenu intime est un délit grave, puni par la loi. Et
Oui.
au-delà de l'aspect légal, il est crucial de sensibiliser les jeunes à la gravité de cet acte, à l'atteinte à la dignité et à l'intimité de la victime.
La notion de consentement est fondamentale dans ce contexte.
Oui.
On a vu que le droit suisse a évolué pour mieux protéger les mineurs, mais est-ce que ces lois sont suffisantes face aux réalités d'Internet?
C'est une question complexe, les lois évoluent, mais la technologie avance à une vitesse fulgurante. Prenons l'exemple de l'intelligence artificielle, capable de créer des images et des vidéos hyper réalistes, des deepfakes.
L'IA, c'est fascinant et effrayant à la fois.
Oui.
On imagine les dérives possibles, notamment la création de revenge porn à partir de photos de personnes réelles sans leur consentement.
Et ce n'est pas tout. L'Office des mineurs en France estime que 85% des images pédocriminelles diffusées sur Internet dans les années à venir seront issues de l'IA. C'est une statistique qui donne froid dans le dos.
On se retrouve donc face à une situation inédite où la technologie nous permet de créer des contenus de plus en plus réalistes, mais aussi de plus en plus dangereux. Comment est-ce qu'on peut légiférer, encadrer, protéger face à cette nouvelle réalité?
C'est le grand défi de notre époque. Il est urgent d'adapter nos lois pour tenir compte de ces nouveaux défis, punir sévèrement la création et la diffusion de contenus illicites générés par l'IA. Mais la loi ne fait pas tout.
Il faut aussi sensibiliser le public, et en particulier les jeunes, à la capacité de l'IA à créer des contenus trompeurs. Ils doivent apprendre à décrypter les images, à ne pas prendre tout pour argent comptant.
Et c'est là que l'éducation aux médias et le développement de l'esprit critique prennent tout leur sens. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, mais d'apprendre à l'utiliser de manière responsable et éclairée. Et justement, cette capacité de l'IA à créer du contenu hyper-réaliste soulève une question importante: comment les jeunes perçoivent-ils ces contenus, surtout quand il s'agit de nudité ou de situations intimes?
C'est vrai, est-ce que pour eux, dénuder virtuellement quelqu'un grâce à l'IA est aussi grave que de diffuser une vraie photo? Est-ce qu'ils ont conscience du mal que cela peut faire?
C'est difficile à dire avec certitude, mais on peut imaginer qu'une partie des jeunes ne mesure pas vraiment l'impact de ces actions. Ils grandissent dans un monde où l'image est partout retouchée, modifier la frontière entre le réel et le virtuel devient flou.
D'où l'importance de les sensibiliser, de leur expliquer que même si une image est créée par l'IA, le préjudice pour la personne concernée est bien réel.
Exactement, on doit les aider à comprendre que derrière chaque image, il y a une personne avec sa dignité, sa sensibilité.
Et ça me fait penser à un autre point important de l'éducation à la sexualité à l'ère numérique, la confiance et le respect dans les relations, qu'elles soient virtuelles ou non.
Tu as raison de souligner, on a vu dans nos sources que la confiance ne se construit pas sur la surveillance et le contrôle, mais sur le respect de l'intimité de l'autre.
Fouiller téléphone de son partenaire, exiger ses mots de passe, c'est une forme de violence, une violation de la confiance.
Tout à fait, et ce principe s'applique aussi au contenu intime partagé dans le cadre d'une relation.
On a parlé des nouvelles lois suisses qui encadrent le partage de nudes entre mineurs, mais qu'en est-il des contenus échangés entre adultes consentants? Y a-t-il un vide juridique?
C'est une question qui mérite d'être posée actuellement. La loi ne dit pas clairement qu'il faut effacer les contenus intimes après une rupture.
Donc un ex-partenaire pourrait garder des photos ou des vidéos intimes et les utiliser pour faire du mal, même si la relation est terminée.
C'est un risque, oui. Il serait bien que la loi évolue pour protéger les gens dans ce genre de situation. Retirer son consentement dans une relation devrait aussi vouloir dire retirer son consentement pour les contenus intimes.
C'est logique, c'est une question de respect de la vie privée. Tout à fait, et ça nous amène à réfléchir plus largement à la nécessité de fixer des limites dans l'utilisation des technologies, surtout quand il s'agit de sexualité. On a vu des conseils pour anonymiser les contenus intimes avant de les partager, pour protéger sa vie privée en ligne.
Oui, mais il faut rappeler que même avec des précautions, le risque zéro n'existe pas une fois qu'un contenu est en ligne, on perd le contrôle sur sa diffusion.
D'où l'importance de bien réfléchir avant d'agir, de peser le pour et le contre avant de partager des informations sensibles.
Absolument. Il est crucial de sensibiliser les jeunes à ces enjeux, de leur donner les outils pour faire des choix responsables.
On a beaucoup parlé des risques, mais n'oublions pas qu'Internet et les réseaux sociaux peuvent aussi être des outils d'émancipation, de découverte, d'expression de soi.
Tu as raison, il ne faut pas diaboliser la technologie. L'éducation à la sexualité à l'ère numérique ne doit pas se résumer à une liste d'interdits et de dangers.
Il s'agit d'accompagner les jeunes dans leur exploration du monde numérique, de les aider à développer leur esprit critique, à faire preuve de discernement, à utiliser les outils numériques de manière responsable et positive.
Tout à fait, l'objectif est de les rendre acteurs de leur vie numérique, capables de faire des choix éclairés, de se protéger, de respecter les autres et de s'épanouir dans cet environnement en constante évolution.
On a vu que les réseaux sociaux peuvent être des lieux d'échange et de soutien pour les jeunes qui se posent des questions sur la sexualité. Mais est-ce qu'on atteint tous les jeunes de la même manière?
Excellente question. On a lu des témoignages qui montrent qu'il est plus difficile de parler des sujets avec les garçons adolescents. Ils semblent moins enclins à parler de leurs émotions, de leurs doutes, de leurs expériences.
Et il y a aussi la question des différences de niveau de compréhension en matière de santé sexuelle. Tous les jeunes n'ont pas la même capacité à comprendre et à analyser les informations sur la sexualité, qu'elles soient en ligne ou hors ligne.
C'est pourquoi il est important d'adapter les messages et les formats de communication aux différents publics. On doit proposer des contenus variés qui s'adressent à la fois à ceux qui sont à l'aise avec les réseaux sociaux et à ceux qui le sont moins.
L'approche par les pairs semble particulièrement prometteuse pour toucher les jeunes de manière authentique et accessible.
Oui, l'éducation par les pairs permet de sortir du schéma traditionnel où l'adulte a transmis son savoir aux jeunes. C'est un échange horizontal basé sur le partage d'expériences, la confiance et l'empathie.
On crée ainsi des espaces d'apprentissage plus informels, plus proches des réalités des jeunes.
Tout à fait. Et c'est aussi un moyen de valoriser les compétences des jeunes, de leur donner la parole, de les impliquer dans la construction de leur propre savoir.
On a beaucoup parlé du rôle des jeunes, des parents, des éducateurs, mais qu'en est-il des plateformes numériques elles-mêmes? Quelle est leur responsabilité dans l'éducation à la sexualité à l'ère numérique?
C'est un sujet complexe et qui fait débat. On a vu que les plateformes sont souvent critiquées pour leur manque de transparence, leur modération parfois arbitraire, la diffusion de contenus inappropriés.
Le Digital Service Act, DSA, en Europe, essaie d'imposer des règles plus strictes aux plateformes, notamment pour la protection des mineurs et la lutte contre la désinformation, mais est suffisant.
C'est un premier pas important, mais il reste beaucoup à faire. Les plateformes doivent prendre conscience de leurs responsabilités sociales et s'engager davantage dans la promotion d'une éducation à la sexualité responsable.
Cela pourrait passer par des partenariats avec des organisations spécialisées, des outils de signalement plus efficaces, des campagnes de sensibilisation.
Oui, et il est important que ces initiatives soient conçues en collaboration avec les jeunes eux-mêmes pour qu'elles répondent à leurs besoins et à leurs habitudes.
On a vu que la modération des contenus est un sujet délicat. Il faut trouver un équilibre entre la liberté d'expression et la protection des utilisateurs.
C'est un défi constant pour les plateformes. Il faut lutter contre les contenus illégaux comme la pédopornographie ou l'incitation à la haine. Mais il faut aussi faire attention à ne pas censurer les contenus éducatifs ou les opinions différentes.
La transparence est essentielle dans ce domaine. Les utilisateurs doivent comprendre les critères de modération, les procédures de signalement, les recours possibles.
Tout à fait. Et les plateformes doivent être plus réactives face aux signalements, plus transparentes, dans leurs décisions plus ouvertes au dialogue avec les utilisateurs. On voit bien que l'éducation à la sexualité et à la numérique est une responsabilité partagée. Parents, éducateurs, institutions, plateformes numériques, tous ont un rôle à jouer pour accompagner les jeunes dans cet environnement complexe et en constante évolution. Et cette responsabilité, elle nous concerne tous, pas seulement les personnes directement impliquées dans l'éducation. On a tous un rôle à jouer pour créer un environnement numérique plus sain, plus respectueux, où les jeunes peuvent s'épanouir en toute sécurité.
Tout à fait. Cela passe par nos propres comportements en ligne, par la manière dont on interagit avec les autres, par les valeurs que l'on véhicule.
On peut choisir de ne pas partager de contenu humiliant ou dégradant. On peut signaler les comportements abusifs. On peut soutenir les initiatives qui promeuvent une éducation à la sexualité positive et responsable.
Et n'oublions pas l'importance de l'écoute et du dialogue. Il faut être attentif aux signaux que nous envoient les jeunes, créer des espaces de parole où ils se sentent en confiance pour exprimer leurs doutes, leurs peurs, leurs expériences.
Parler de sexualité avec les jeunes, ce n'est pas toujours simple, mais c'est essentiel pour les aider à se construire, à se protéger, à développer des relations saines et épanouies.
Et il ne s'agit pas seulement des parents et des éducateurs. Les amis, la famille, l'entourage, tous peuvent jouer un rôle dans cette éducation.
C'est un effort collectif, une responsabilité partagée.
Exactement. Et c'est un investissement pour l'avenir. En accompagnant les jeunes dans leur découverte de la sexualité à l'ère numérique, on contribue à construire une société plus juste, plus respectueuse, plus ouverte à la différence.
On arrive à la fin de notre exploration. Et je veux dire que ce sujet me laisse pensif. On a vu les défis, les risques, mais aussi les opportunités. Les solutions possibles, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette plongée au cœur de l'éducation à la sexualité à l'ère numérique?
Ce qui me frappe, c'est la complexité du sujet. On est face à un monde qui change tout le temps, où les repères traditionnels sont bousculés. L'éducation à la sexualité ne peut plus se limiter à la transmission de connaissances biologiques. Il faut prendre en compte les dimensions psychologiques, sociales, culturelles, éthiques et bien sûr technologiques.
C'est un vrai défi pour les parents, les éducateurs, les institutions, mais c'est aussi une chance de repenser l'éducation à la sexualité, de l'adapter aux réalités d'aujourd'hui, de la rendre plus inclusive, plus interactive, plus en phase avec les besoins des jeunes.
Et c'est une mission qui nous concerne tous, pas seulement les spécialistes. Chacun peut contribuer à créer un environnement plus sain, plus respectueux, plus propice à l'épanouissement des jeunes.
Pour conclure, j'aimerais vous laisser avec une question à méditer. Comment pouvons-nous collectivement, en tant que société, tirer le meilleur parti des technologies numériques pour promouvoir une éducation à la sexualité positive, responsable et épanouissante pour tous?
C'est une question essentielle. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse unique. Il faut expérimenter, innover, dialoguer, s'adapter en permanence. L'important, c'est de ne pas rester passif, de s'engager, de contribuer à construire un avenir numérique plus humain, plus juste, plus respectueux.
Merci pour cette réflexion stimulante. J'espère que cette plongée vous aura donné des pistes pour mieux comprendre les enjeux de l'éducation à la sexualité, à l'ère numérique, et pour agir à votre niveau pour créer un environnement plus positif pour les jeunes. N'hésitez pas à consulter les ressources mentionnées dans la description de l'épisode et à poursuivre la conversation en ligne et hors ligne.
À bientôt pour une nouvelle plongée.